Merci beaucoup. Oui, oui, ni moi, ni moi. Oui, oui, ni moi. Oui, oui, ni moi. Oui, oui, ni moi. Ni moi. Oui, oui, ni moi. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont avancés. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te disons encore une fois merci pour cet après-midi. Merci parce que c'est toi qui as permis que nous puissions nous retrouver encore une fois ici aujourd'hui, afin d'écouter de ta part. Père éternel, nous prions encore une fois pour nos cœurs, Seigneur, afin que nos cœurs soient prêts à recevoir cette parole et que cette parole, Seigneur, puisse encore une fois être une semence qui va porter des fruits et des fruits qui demeurent dans notre vie. Enfin, Seigneur, que cette parole puisse nous éclairer. Enfin, que cette parole puisse nous éclairer, nous orienter et nous aider encore une fois à aller de l'avant dans notre marche avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore une fois m'utiliser et tu vas encore une fois parler à ton peuple ici présent. Car c'est dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous te prions avec acclamation et action de grâce. Amen, amen, amen. Amen. Vous allez bien? Voilà, nous disons encore une fois merci au Seigneur pour l'opportunité qui nous a été donnée de pouvoir continuer avec notre enseignement sur le livre des Proverbes. En tout cas, c'est un privilège, un honneur pour moi de me tenir encore une fois devant vous cet après-midi. Amen. Hein? Et je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont suivi dans la vidéo que la sœur Annette a partagée. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur, ok? Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin et lui dire le cœur? Et nous allons spécifiquement parler de garde ton cœur par-dessus tout. Garde ton cœur par-dessus tout. Est-ce que tu peux encore une fois dire ça à ton voisin? Garde ton cœur par-dessus tout. Garde ton cœur par-dessus tout. Et nous sommes toujours dans les livres des Proverbes parce que c'est les livres que nous sommes en train de parcourir pendant cette saison. Et nous sommes exactement en Proverbes chapitre 4. Je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous en avez, ou si vous les avez sur votre téléphone, à ouvrir l'application Bible et à aller dans Proverbes chapitre 4. On devrait normalement lire les chapitres dans son entièreté, mais nous allons seulement commencer au 20e verset jusqu'au 27e, ok? Proverbes chapitre 4, du 20e au 27e verset. On y est? Si vous y êtes, vous dites, nous y sommes, ok? Proverbes chapitre 4, verset 20 au 27e verset. Vous y êtes? Nous y sommes, hein? D'accord, on peut lire. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans les fonds de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère les chemins par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal, parole du Seigneur. Amen. Hein? Donc, la prédication d'aujourd'hui, t'as quoi vraiment, Yakiro? Ok? T'as quoi, Yakiro? Parce qu'on va parler du cœur. On va parler du cœur. Et des fois, on entend dans la ville ou même dans la vie des conseils du genre « Suis la voix de ton cœur. Suis la voix de ton cœur, n'est-ce pas? » Et ça peut nous mettre dans la confusion et on se dit finalement, ok, est-ce qu'on est là pour suivre la voie de nos cœurs ou bien on peut aussi être un peu méfiant par rapport à ce concept-là du cœur parce que la Bible nous dit exactement dans Jérémie chapitre 17 que le cœur est tortueux par-dessus tout, n'est-ce pas? Qui peut le comprendre? Des fois on peut se dire, ok, est-ce que je suis la voie de mon cœur ou bien est-ce que je me méfie du cœur parce que la Bible elle-même dit que le cœur est tortueux par-dessus tout, n'est-ce pas? Ça peut nous mettre dans la confusion. Alors, dans ces messages, vraiment, je vais les simplifier et je les subdiviser en trois sections principales. La première section va nous dire c'est quoi le cœur au sens biblique, ok? C'est quoi le cœur? Donc, si vous voulez comprendre c'est quoi le cœur, au-delà de l'organe qu'on connaît dans l'anatomie, cette section-là va nous donner tous les détails. La deuxième section doit nous dire pourquoi est-ce que nous devons garder notre cœur? Pourquoi nous devons le préserver pur? Donc, première section, on va dire c'est quoi le cœur? Deuxième section, on va parler de pourquoi est-ce que nous devons préserver et garder notre cœur par-dessus tout. Et enfin, nous allons dire comment. Comment est-ce qu'on peut garder notre cœur? Vous êtes prêts? Donc, d'abord, on va parler de c'est quoi le cœur. Deuxième partie, on va parler de pourquoi est-ce que nous devons le préserver, pourquoi nous devons le garder. Et enfin, nous allons parler de comment. Comment est-ce que nous pouvons garder notre cœur par-dessus tout? Alors, c'est quoi le cœur? Le cœur, dans le sens biblique, c'est quoi? Dans la Bible, le cœur peut signifier à la fois l'organe physique tel que nous le connaissons, n'est-ce pas? Dans l'anatomie, c'est l'organe du corps qui assure la circulation sanguine, n'est-ce pas? Vous avez étudié ça à l'école, dans les cours d'anatomie. Donc ça, c'est le cœur. Même dans le sens biblique, c'est aussi le cœur. C'est aussi le cœur. Quand on parle du cœur, il y a le passage de 1 Samuel ou 2 Samuel où on parle du mari d'Abigaël. Et ce mari-là, on dit qu'il avait un souci avec le cœur. Ça, c'était le cœur physique. C'était le cœur physique. Okay? Mais la Bible a aussi un sens figuré du cœur. Le cœur, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est aussi le siège de nos pensées, de notre esprit. Quand la Bible parle du cœur, elle est en train de parler du siège de nos pensées, de notre esprit. C'est là qu'on se rappelle, c'est là qu'on réfléchit. Quand on parle du cœur, ça veut dire que dans le sens figuré, c'est là même que se passe notre thought process, donc notre processus de réflexion. C'est là qu'on analyse, c'est là qu'on se rappelle des choses passées. Donc le cœur, ça peut aussi être le siège de notre pensée, de notre esprit, ok? Le cœur, c'est également le siège de nos émotions, n'est-ce pas? Et de nos passions. C'est là qu'on ressent la joie. C'est là qu'on ressent la tristesse, c'est là qu'on ressent la mélancolie. Quand on tombe amoureux, on sent quelque chose, n'est-ce pas? C'est dans le cœur, le siège des émotions, de la passion. Ça aussi, ça peut être le cœur dans les sens figurés. C'est là qu'on ressent la peine, c'est là qu'on ressent la vexation, c'est là qu'on ressent la colère, l'amertume. C'est le siège des émotions. C'est le siège des passions. Quand on dit que je t'aime de tout mon cœur, n'est-ce pas? Ça veut dire que toutes mes émotions, toutes mes passions se portent vers cette personne à qui on dit ça. On est ensemble jusque-là. Donc le cœur, c'est le siège de la pensée, de l'esprit. C'est le siège des émotions, de la passion. OK? C'est là qu'on ressent, hein, on a des sentiments. Le cœur, c'est aussi le siège de la volonté. Le siège de la volonté. Pour ceux qui écrivent, donc il y a trois choses. J'ai parlé de l'esprit ou la pensée. J'ai parlé des émotions, des passions. Mais aussi, c'est le siège de la volonté. Ça veut dire que quand tu vas prendre une décision, c'est là même que tu décides, à l'intérieur de ton cœur. Quand tu vas prendre une résolution, quand tu vas opérer un choix, quand tu décides de passer à l'action, ça commence par le cœur, dans le sens figuré, parce que c'est aussi le siège même de la volonté. C'est pour ça que la Bible, dans Luc chapitre 15, verset 17, la Bible nous dit que le fils prodigue rentra en lui-même. OK? Avant qu'il ne se décide de retourner chez son père, il est d'abord rentré en lui-même. Parce que le cœur, c'est le siège de quoi? De la volonté. C'est là qu'on prend les décisions. On est ensemble jusque-là. Et donc, le cœur est cette place centrale où Dieu nous rencontre. C'est là même que se trouve la racine de la foi et de l'obéissance. Là, au cœur. Quand on dit que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, c'est parce que la racine de la foi et de l'obéissance, c'est là même au cœur. Okay? Il faut décider dans son cœur, n'est-ce pas? Et professer de sa bouche que Jésus est Seigneur. Parce que la racine, justement, elle se trouve où? Dans les cœurs. Dans les cœurs. Et c'est pour ça que l'état de notre cœur détermine toujours notre conduite. L'état de notre cœur détermine toujours notre conduite. Une femme, une fille qui est amoureuse, on sait les voir. On sait les voir. Même un gars qui est amoureux, on sait les voir. Parce que quand son cœur, son affection est portée vers cette femme ou ces garçons, il n'arrête pas de penser à cette personne. Il peut arriver même un moment où elle est dans l'auditoire ou dans la classe, mais elle n'est pas en train de suivre le professeur. Elle est en train de penser à qui? À cet homme-là. Il y en a même qui sont ici à l'église. Ils ne sont pas en train de suivre la prédication. Ils ne sont pas en train de suivre ce qu'on est en train de dire ici. Ils sont en train de chatter entre eux. Pourquoi? Parce que l'état de notre cœur détermine notre conduite. Vrai ou faux? L'état de notre cœur détermine notre conduite. Il y a des personnes qui ont du mal à manger. Pourquoi? Parce que Hayamouona, ils ne se sont pas encore vus. Pourquoi? Parce qu'on a touché les centres même de notre être. En bref, le cœur, c'est vraiment la personne intérieure. C'est la personne intérieure. Là, je viens de nous dire c'est quoi le cœur. Je vais maintenant nous parler de pourquoi est-ce qu'il faut garder et préserver le cœur pur. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à garder le cœur? Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à protéger cette personne intérieure? La première chose que la Bible nous montre, c'est que tout péché, tout mal vient du cœur. Tout péché vient du cœur. Marc chapitre 7, verset 21 dit, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. » Les pharisiens étaient en train de montrer à Jésus comment il menait une vie pure. Mais Jésus aussi était en train de leur faire un point que c'est une vie pure, oui, mais de l'extérieur. Vous essayez, munapima jipanga meni kwa inji. Et il dit que ce n'est pas ce que vous mangez qui va vous affecter, mais c'est plutôt ce qui touche votre cœur. Ce qui vient du cœur, l'état de votre cœur, c'est ça même qui vous rend impur. C'est pour ça qu'il faut garder le cœur. Ça, c'est la première raison. Parce que tout péché, tout mal, vient d'abord du cœur. J'ai dit que l'état de notre cœur détermine notre conduite. Détermine notre conduite. Et la clé pour vaincre tous ces vices que Jésus a cités dans Marc chapitre 7, ce n'est pas essayer de kujipanga de l'extérieur. Non, ça doit commencer par une transformation intérieure. Ça doit commencer par une chirurgie du cœur. Parce que quand l'intérieur est transformé, on n'a même plus besoin d'insister pour que les gens se comportent bien à l'extérieur. Des fois, on dit aux gens, « Ah, on a vala mbaya. Ah, cette femme, elle s'habille. Ah, comment est-ce que toi, on a vala ivi ?» Peut-être qu'en elle, il y a cette soif-là de l'affection, il y a cette soif-là d'être vue. En elle, il y a cette soif-là d'être remarquée. Mais à partir du moment où son cœur sera transformé, on n'aura même pas à la pousser, à dire « un-un ». Où s'y va les filles. Elle-même, elle va se changer. D'elle-même. Parce que tout dépend de comment son cœur est. Tout dépend du cœur. Même chose pour ces personnes qui sont accro, ça peut être à l'alcool, ça peut être à toutes sortes de vices que vous pouvez nommer. Il suffit que leur cœur change. Et on ne va même pas les pousser, on ne va même pas les forcer. On n'a pas besoin de les mettre en prison pour qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils font. D'eux-mêmes, partage pas. Parce que cette transformation intérieure est plus puissante que toutes les autres mesures qu'on peut prendre de l'extérieur. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important que nous puissions garder notre cœur. Deuxième raison pour laquelle nous devons garder notre cœur, c'est parce que l'amour du monde commence dans le cœur. L'amour du monde commence dans le cœur. Le livre de 1 Jean nous met en garde contre l'amour du monde. Il parle des désirs de la chair, il parle de la convoitise des yeux, il parle de l'orgueil de la vie. Toutes ces choses commencent dans le cœur. Parce que quand on parle des désirs de la chair, on parle des mauvaises pensées. On parle de l'immoralité sexuelle, on parle de l'adultère, on parle de la sensualité, l'obscénité, quelqu'un qui est impudique, la paresse, l'ivrognerie et toutes ces autres formes de vices, ça commence toujours à l'intérieur, avant de se transformer en action. Ça, c'est les désirs de la chair. La convoitise des yeux, la jalousie, l'envie, ce qui pousse même au vol, la comparaison, tout ça, ça commence où? À l'intérieur. Ce ne sont pas des choses qu'on peut voir. On voit les effets, mais tout a commencé où? À l'intérieur du cœur. L'amour du monde commence dans le cœur. L'orgueil de la vie, c'est croire supérieur aux autres. On sent vraiment dans le langage de quelqu'un qui est « ou garçon à la Joasiac ». Tout ça, ça commence où? Dans le cœur, le siège de la pensée. Parce que déjà dans sa tête, il sait que je suis meilleur que tout le monde ici. Et ça se transmet dans ses paroles, dans ses actions. Il veut que tout le monde les serve. Il veut que tout le monde les remarque. Pourquoi? Parce que dans sa tête, dans ses pensées, dans son cœur, il se croit déjà supérieur. L'amour du monde commence dans le cœur. Troisième raison pour laquelle nous devons préserver et garder notre cœur, c'est que tout ce qui est gardé sur le cœur finit toujours par ressortir. Tout ce qu'il y a sur votre cœur finit toujours par ressortir. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des personnes, je me rappelle, Mouindo avait dit ça un jour, il y a des personnes qui ne parlent pas, il ne faut pas les pousser à parler. C'est peut-être parce que s'ils commençaient à parler, on se rendrait compte que, qu'est-ce qu'il y a avec cette personne? Ça, c'est ce que Mouindo avait dit. Et c'est vrai. Parce que la Bible dit en Luc chapitre 6, verset 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, selon l'état de votre cœur, on verra les bons trésors ou les mauvais trésors. Et généralement, avant la conversion, avant qu'on ne vienne à Christ, il y a toujours un mauvais trésor dans notre cœur. C'est pour ça que Jérémie chapitre 17, verset 9 pouvait dire « Le cœur est tortué par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître ?» Les cœurs des hommes sont méchants. Si vous voyez tous ces hommes en train de massacrer les autres sans aucun remords, c'est parce que leurs cœurs sont méchants, sont tortueux, ils ne connaissent pas Dieu, ils sont dans les ténèbres, à l'intérieur d'eux-mêmes. Aucun remords, ils peuvent attaquer des maisons, ils peuvent voler, ils peuvent tuer. Pourquoi? Parce que leurs cœurs sont assombris. Leurs cœurs sont méchants, tortueux et dans les ténèbres. Romains chapitre 1, verset 25 dit, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Ça, c'est l'homme dans sa nature pécheresse. Ça, c'est l'homme avant sa conversion. C'est un homme dont le cœur ne connaît pas Dieu. C'est un homme qui a rejeté Dieu. Et c'est pour ça que son cœur est sans intelligence. Tu vois des hommes qui commettent des actes, on dirait des animaux. Toutes ces personnes qui massacrent des gens ici chez nous, c'est parce que leurs cœurs sont sans intelligence. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Et à la conversion, quand nous venons en Christ, c'est là que nous commençons à faire quoi? À accumuler un bon trésor dans les cœurs. Parce que Jérémie chapitre 31, verset 33 dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. » Parce que ce qui arrive quand on vient en Christ, la loi de Dieu est écrite sur nos cœurs. C'est une transformation qui commence par l'être intérieur. Ce n'est pas parce que tu donnes des offrandes, ce n'est pas parce que tu chantes, ce n'est pas parce que je prêche. C'est quelque chose qui a commencé d'abord à l'intérieur. Il faut que le cœur soit transformé. Il faut que le cœur soit nouveau. Il faut que la loi de Dieu soit écrite sur le cœur pour que ce cœur-là puisse faire ressortir des bons trésors. C'est ça même l'essence de la nouvelle alliance. Ézéchiel chapitre 36, verset 26 dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est une métaphore. Un cœur de pierre, c'est ce cœur-là qui est dans les ténèbres, qui n'est pas sensible aux choses de Dieu. Un cœur de chair, c'est ce cœur-là qui est sensible aux choses de Dieu. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et vous devez savoir que dans la marche chrétienne, il y a toujours une bataille. Il y a toujours une bataille entre cet ancien cœur-là et le nouveau cœur. que Dieu nous a donnée. Il y a toujours une bataille entre le vieil homme et la personne nouvelle que nous sommes en train de devenir en Christ. Et là, je vais vous donner un principe très important que vous devez garder jalousement vraiment. C'est que tout ce que tu nourris grandit. Et tout ce que tu vas priver meurt. Tout ce que tu nourris grandit. Tout ce que tu prives meurt. Parce que si tu nourris l'ancien homme, le vieil homme là, qui ne connaissait pas Dieu, il va continuer à grandir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent une vie de défaite. Ils ne savent pas se débarrasser des anciennes addictions. Ils ne savent pas se débarrasser de certains péchés mignons. Pourquoi? Parce que vous les nourrissez. À partir du moment où vous commencez à les priver, vous allez voir comment ils vont mourir. Moi, j'ai toujours donné un exemple de comment j'ai arrêté. J'étais fan de la musique profane avant ma conversion. Grand fan. En tout cas, tous ceux qui me connaissent avant, ils savent que moi, j'étais autant. Tous ces groupes-là de notre époque, hein, à notre époque, c'était Eminem, Lil Wayne, et, you know, God Over My... Hein, c'était quoi encore? Hein? Je ne me rappelle plus. 50 Cent, tu vois tous ces trucs-là, Chris Brown, ça c'était moi. Mais je ne sais pas vous dire comment est-ce qu'il y a eu cette métamorphose. Bon, je sais vous le dire, maintenant je sais. Mais c'est pourquoi? Parce que j'ai arrêté de nourrir ça. J'ai commencé à me nourrir d'autres choses. Et petit à petit, l'appétit que j'avais pour ce genre de choses, pour ce genre de musique, a disparu. Maintenant, si tu regardes sur mon téléphone, en tout cas, je vous mets au défi, tu ne trouveras pas, même pas une seule chanson qui n'est pas chrétienne. Même pas une seule. Je vous mets au défi. Mon téléphone est là, après lequel vous pouvez venir vérifier. Pourquoi? Parce que à partir du moment où j'ai arrêté de nourrir ces vieils hommes-là, mes appétits ont changé, mes menus ont changé. Donc, un grand principe que vous devez garder, c'est que ce que tu nourris grandit et ce que tu prives meurt. En d'autres termes, garder son cœur, c'est faire attention à ce à quoi, avec quoi nous les nourrissons. Garder son cœur, c'est faire attention à ce avec quoi nous les nourrissons. Mais alors, comment est-ce que nous nourrissons notre cœur? Ça sera dans la troisième partie. Autre raison pour laquelle nous devons garder notre cœur pur, nous devons vraiment garder nos cœurs et les préserver, c'est que seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Jésus a dit dans les Béatitudes, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Il y a des personnes qui veulent avoir une vie d'intimité avec Dieu. Ils veulent aller d'une dimension à une autre, hein, dans leur croissance spirituelle. Mais leur cœur, il y a encore des choses sur votre cœur qui ne permettent pas que Dieu vraiment puisse se révéler à vous d'une manière encore plus grande. Il faut que votre cœur soit pur. En d'autres termes, il faut qu'il soit intègre. Il faut qu'il soit sincère. Il y a un seul péché parmi les 10 commandements qui est un péché du cœur. Les derniers commandements ont dit « tu ne convoiteras pas ». C'est la convoitise, n'est-ce pas? La convoitise même est la racine de tous les autres péchés. C'est un péché du cœur. Tout ce que les 10 commandements listent là, au fait, la racine, c'est le dernier commandement là. La racine, c'est le dernier. Tu ne convoiteras pas. Parce que convoiter, c'est désirer ce que Dieu ne nous a pas donné. Et c'est là même le péché d'Adam et Ève. Dieu leur a donné. Vous pouvez manger de tous les fruits, sauf. Et convoiter, c'est quoi? C'est désirer ce que Dieu ne t'a pas donné. Et ils ont regardé le seul arbre qu'il a interdit. Et c'est vers celui-là qu'ils se sont tournés. Parce que la convoitise, c'est la racine de tous les maux qui sont cités dans les 10 commandements. Et c'est un péché du cœur. C'est pour ça que vous devez faire tout pour garder votre cœur, préserver votre cœur. Alors, comment est-ce que nous pouvons garder nos cœurs? C'est de ça que nous allons parler dans les quelques minutes qui nous restent. Mais avant d'abord que je ne passe là, il y a une petite vidéo que je voulais qu'on puisse nous montrer, hein, pour un peu montrer l'effet de la convoitise dans la vie de l'homme. Je ne sais pas si les amis du média sont prêts. Comme ça, ils peuvent un peu nous la balancer. Elle est vraiment courte. Et après, on va continuer.
Ah.
Voilà, merci beaucoup. C'était ça. C'était ça. La qualité de l'image n'était pas top, mais j'espère que vous avez compris. Hein? J'espère que vous avez compris. En fait, il y a un proverbe qui dit que la convoitise est comme la mort parce qu'elle n'est jamais satisfaite. Il n'y a jamais un moment où la mort s'arrêtera, où les gens arrêteront de mourir. Comprenez? Et c'est comme ça avec la convoitise. Parce qu'à partir du moment où tu commences à t'adonner à certaines habitudes, à certaines convoitises, certains interdits, ton cœur va encore en vouloir. Il va vouloir plus, en vouloir plus jusqu'à ce que tu vas devenir esclave de ces choses-là. C'est ça l'illustration même de cette vidéo. Et donc, il est important que nous puissions garder nos cœurs. Comment garder nos cœurs? Il y a un auteur d'un livre intéressant qui s'appelle « Les voyages du pèlerin ». Je pense que certains d'entre vous ont déjà vu le film « Les voyages du pèlerin », n'est-ce pas? C'est venu d'un livre. Et ce même auteur a écrit un autre livre qui s'appelle « La guerre sainte ». Et dans ce livre, il représente le cœur comme une cité forte, mais qui peut être pénétrée ou bien accessible à travers 5 portes. 5 portes. Le cœur comme une cité forte, mais qui peut être pénétrée à travers 5 portes. Et il dit que la première porte, c'est la porte des yeux. Et cette porte est l'une des plus importantes. La deuxième porte, c'est la porte des oreilles. Et c'est aussi cette porte que l'ennemi a utilisée en premier pour parler à Ève, la porte des oreilles. Il y a aussi la porte de la bouche. Ce qu'on dit peut affecter notre cœur aussi. Il y a également la porte des émotions, des sensations, du toucher. Tout ça, ça peut affecter notre cœur. Et enfin, il y a la porte de l'odorat. Il y a des personnes, Anaskaratou, les Dadanapit, Anaskaratou, elle vient encore dépasser. Les mêmes parfums, ces parfums. La porte de l'odorat. Et c'est bien ce que nous voyons maintenant dans les passages des bases de notre réflexion d'aujourd'hui. Parce que maintenant, nous retournons dans Proverbe chapitre 4. La Bible nous dit, « Mon fils, Proverbe chapitre 4, verset 20, « Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Il parlait de quelle porte? De la porte des oreilles. Parce que si nous voulons garder notre cœur, nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Faire attention à ce que nous écoutons. Qu'est-ce que nous sommes en train d'écouter actuellement? Il y a beaucoup de faux enseignements qui ont poussé des gens à faire des actes inimaginables. Certains ont vendu leurs parcelles. Certains ont mis de l'eau sur des radios pour que Bayombe. Tout ça à cause de ce qu'ils ont fait quoi? Ils ont écouté. Vous voyez toutes ces vidéos qui circulent sur les médias sociaux. Certains se sont laissés manipuler. Assez ongez en a 5 dollars. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté. Faites attention à ce à quoi vous exposez vos oreilles. Il y a des faux enseignements. Il y a des mauvaises nouvelles qu'on écoute ici et là. Il faut savoir les filtrer. Et il faut aussi savoir quand arrêter de nous exposer à ces mauvaises nouvelles. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent dans la peur, dans l'inquiétude. Ils ne savent plus avancer dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement obsédés par toutes ces mauvaises nouvelles qu'on écoute ici et là. Ici, vous devez vraiment déterminer quelle est la voix la plus forte dans votre vie. Est-ce que c'est la voix de Dieu qui dit que je serai avec toi, peu importe les circonstances, ou bien c'est la voix des informations qui nous montrent encore et encore comment le monde va à la dérive? Faire attention à ce que nous écoutons. Et il y a d'autres qui peut-être sont encore comme moi, quand je n'étais pas encore en Christ, vous écoutez beaucoup de musique mondaine. Pas seulement les écouter, vous regardez aussi, mais on va en parler. On écoute ces chansons qui ont plein de fantaisies. Et on commence à penser comme ça. On commence à se faire des histoires dans la tête à cause de ce qu'on écoute. Il y a d'autres personnes, ici je parle surtout des femmes et des filles, qui écoutent certains gars, tu l'entends, il te sollicite, il te parle, parce que c'est généralement comme ça que les gars approchent les filles, n'est-ce pas? Ils utilisent des paroles et tu l'écoutes et tu te sens apprécié, tu te sens admiré. Mais il faut voir, est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce que cette personne, ce qu'elle est en train de dire, c'est ce qu'elle pense réellement? Est-ce qu'elle est déterminée à aller jusqu'au bout dans ce qu'elle est en train de dire? Parce que beaucoup d'entre nous s'arrêtent seulement à écouter Et déjà, on s'envole. Déjà, Jacques Béba. Et tu n'as même pas pris le temps d'étudier, d'analyser. Umutu ni mutugan. Est-ce que ces promesses, il les tient? Dans la vie pratique, comment est-ce que les autres les connaissent? Mais parce qu'il t'a dit des choses, c'est fini, tu te laisses emporter. Faire attention à ce qu'on écoute. Et c'est comme ça qu'on voit nos sœurs parties. On ne sait plus vraiment la retrouver. Pourquoi? À cause de certaines choses qui ont été dites. Et ça, c'est un avertissement aussi pour les gars. Quand tu dis une chose à une fille, il faut être sérieux dans ce qu'on dit. Très attention. Parce que tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de dire, de l'effet que ce que tu es en train de dire a sur son cœur, sur la personne qu'elle est à l'intérieur. Donc, un grand avertissement. Avant de vous lancer à parler, ça fait du bien, n'est-ce pas? Il faut vraiment faire attention à l'effet que cela a sur la personne intérieure. C'est pour ça que ça fait très mal quand on fait quoi? Quand il y a une rupture. Ça fait très mal. Pourquoi? Parce que la personne intérieure a été touchée. Et la personne intérieure est souvent plus difficile à guérir que celle qui est à l'extérieur. Souvent plus difficile. Faites attention à ce que vous dites. Ce que nous écoutons informe nos pensées et touche l'homme intérieur. Deuxième chose pour garder notre cœur, ça continue dans Proverbes chapitre 4, verset 24. Il dit « Écarte ta bouche de la fausseté, éloigne tes lèvres des détours. » Pour garder nos cœurs, nous devons faire attention à ce qui vient de nos bouches. Il y a des personnes qui sont experts dans les commérages. Kuseman, ils se nourrissent de ça. En appelant à toi, ce qui est kubiso, do. Donc là où il y a ce commérage-là, c'est là. Donc, pas les gens à ce qui est mzuri. Tu retrouves plaisir à parler des autres. Faire attention à ces choses-là. Faites attention à ce qui vient de nos bouches. Parce que ça affecte notre cœur. Parce que plus tu t'exposes à ces commérages, plus tu y participes et plus tu veux toujours être là. Il y a un principe que nous devons apprendre ici à Gomaville. C'est que si tu dis quelque chose de quelqu'un à son absence, il faut que cette chose-là, tu sois capable de le lui dire en face. C'est un principe que je nous donne et que nous devons garder. Si tu es en train de dire quelque chose à mon absence, mon onguea cool, il faut t'assurer que toutes ces choses que vous vous dites, vous serez capable de me les dire en face. Allô? L'infidélité émotionnelle, elle commence par ce qu'on dit. C'est comme ça que les gens, petit à petit, ils ne tiennent plus compte de leurs engagements parce que Alianjongea tout mwingine. Il croit tout ma blague. Des petites blagues comme ça, et tu oublies peut-être que tu es fiancé à quelqu'un d'autre. Et c'est fini. Juste des blagues comme ça. L'infidélité émotionnelle, à cause de ce qu'on dit. Et le cœur se laisse emporter comme ça. Beaucoup des hommes tombent dans l'infidélité. Ce n'est pas parce que Valiangu Katuivi. Ça commence justement par ces blagues-là. Entre collègues. Des conversations qui au début étaient innocentes et deviennent petit à petit inappropriées. Donc faites attention à ce que vous dites. Troisième chose sur comment garder notre cœur, c'est que nous devons faire attention à ce que nous regardons. Proverbes chapitre 4, verset 21 dit « Mon fils, écoute ces préceptes, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. » Le verset 25 dit « Que tes yeux regardent en face. » Et que tes paupières se dirigent devant toi. Nous sommes en train de parler de ces portes. Et parmi les portes qui touchent notre génération, c'est celle des yeux. C'est celle des yeux. Il n'y a pas une plus grande porte d'entrée pour la convoitise que les yeux. Genèse chapitre 3, verset 6. On nous dit que la femme vit, n'est-ce pas? C'est la même chose aujourd'hui. On voit quelqu'un sur Instagram maintenant, n'est-ce pas? C'est là même que la comparaison commence. Ou le quoi toi au Instagram, ou qu'on a scrollé, n'est-ce pas? Et tu vois, il revenait bien. Fulani Ashaoa. Tu vois des photos, tu commences à penser déjà. Les yeux. Save the date. OK. Marona una alipata bwana. You see? Ça a commencé où? Avec les yeux. Les yeux. Tu es seulement en train de scroller. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelait Akan. Dans Josué chapitre 7, cet homme-là avait fait que les Israélites ont perdu une bataille. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé des objets interdits de la bataille de Jéricho. Alors que Dieu avait formellement interdit aux enfants d'Israël de prendre quoi que ce soit de Jéricho. Et Akan a gardé. Et les enfants d'Israël se sont fait battre à cause de la désobéissance de cet homme. Et quand on l'a attrapé, regardez ce qu'il a dit. Josué chapitre 7, verset 20. Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. » Le verset 21 nous dit, « J'ai vu, il a vu, dans les butins, un beau manteau de chinéar, 100 cycles d'argent et un lingot d'or du poids des 100 cycles. Je les ai convoités. » Il a d'abord fait quoi? Alianza Ona. Et je les ai pris. Parce que ce qu'il a vu a affecté l'homme intérieur. Et la convoitise s'est créée, le désir de l'interdit. Et il a fait quoi? Il est passé à l'action. Il a pris. Et donc ma question pour toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Quel genre de film, quel genre de série es-tu en train de regarder? Et vous devez vous faire un principe. À partir du moment où ce que tu vois, tu ne peux pas les regarder avec tout le monde, c'est qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Dieu, il y a un sérieux problème. Si tu ne peux pas les regarder avec tes petits frères, tes petites sœurs, avec papa et maman, si vous ne t'es pas allé, il y a déjà un problème. Donc, qu'est-ce que tu regardes? Parce que petit à petit, ces choses-là te rendent esclave. Le cœur se tourne vers ce avec quoi on les nourrit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont accros à la pornographie. Pourquoi? Parce qu'elle te montre que tu veux plus. Comme l'homme là. Vous avez vu l'homme? Il a commencé à prendre l'argent. Oh non, il faut tout n'inguer. Et boum, accro, prisonnier, esclave. Et on se demande, mais comment j'ai du mal à arrêter cette habitude? C'est parce que tu as commencé à nourrir et petit à petit, ça a grandi. Les médias sociaux, j'en ai parlé, Instagram, cela nous font beaucoup tomber dans les pièges de la comparaison. Beaucoup de gens aujourd'hui se comparent aux autres à cause des médias sociaux. Il y a des médias sociaux, LinkedIn, ça vous donne vraiment cette opportunité-là de mettre vos accomplissements professionnels. Ah, tel vient d'avoir un nouveau poste, il est maintenant. Et toi, tu dis, ah, où est-ce que tu le sommes là? Moi, je suis allé gonga Kumilango. Il y a Shafika Kupam. Ah, les réseaux sociaux. Instagram, tu vas sur la page de Don Juan, tu vois toutes ces belles photos de mariage. Te dit, si tu le fais à Mungunin. Les pièges de la comparaison, à cause de l'œil, à cause de ce qu'on voit. Pour garder notre cœur, je passe à une autre, et la dernière, nous devons planifier nos voies. Planifier nos voies. Proverbe chapitre 4, verset 26 dit, considère les chemins par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. Toutes tes voies soient bien réglées. Ne te retrouve pas dans une situation compromettante. Planifie tes voies. Prends le temps de réfléchir avant d'agir. Il faut que Dieu nous donne cette capacité de déceler de là où le mal pourrait provenir. Où tu te dis, est-ce que Nikanja on a i itanibeba wapi? C'est ça même, planifier ses voies. Et c'est poser des questions très importantes que je vais lister ici. Planifier ses voies, c'est poser ces questions. Ce que je suis en train de vouloir faire, est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça me construit spirituellement, mentalement ou physiquement? C'est ça, planifier ses voies. Une autre question, c'est de savoir, est-ce que quand je fais cette chose ou ce que je suis en train de planifier là, est-ce que ça ne va pas m'asservir? Est-ce que ça ne va pas me rendre esclave?
Ce que je suis sur le point de faire, est-ce que ça va blesser les autres? C'est une question importante à se poser. Est-ce que ça sera une occasion de chute pour les autres? Les gens nous connaissent d'une certaine manière. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons planifier nos voies. Il est si que c'est vrai, il est ningué, il y en a pendaka, mais tel qu'on te connaît maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu es censé t'habiller comme ça? Est-ce que tu es censé te comporter de cette manière? Est-ce que tu es censé te retrouver à cet endroit-là? Tel qu'on te connaît, Mwimbaji Mkubwa, ancien de l'église, président du MJC, hein? Et on te voit chez Pilipili. Les gens vont se poser beaucoup de questions. C'est pour ça qu'il faut planifier ses voies. Et enfin, la question que nous devons aussi nous poser dans la planification de nos voies, c'est est-ce que ça glorifie Dieu? Que ferait Jésus à ma place? Est-ce que Jésus écouterait ce que je suis en train d'écouter maintenant? Est-ce que Jésus irait là où je suis sur le point d'aller maintenant? Est-ce que Jésus ferait ce que je suis en train de faire maintenant? C'est ça, planifier nos voies. Et ce message, en concluant, j'insiste, ce n'est pas pour les personnes qui n'ont pas encore crié. C'est pour nous qui avons déjà crié. Parce que j'ai dit qu'il y a toujours une bataille dans laquelle nous sommes maintenant, entre le vieil homme et la personne nouvelle que nous sommes en train de devenir en Christ. Et le secret vraiment pour grandir, le secret pour vivre la liberté que Dieu nous a promis, se trouve dans cet enseignement. Gardez son cœur. Gardez son cœur. Gardez son cœur. Vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, des hommes de Dieu, vous écoutez qu'ils sont tombés, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'à un moment, Dieu n'est plus devenu la priorité. La célébrité est entrée dans le cœur. Les gens les ont admirés, les gens les ont loués. Et ces éloges, c'est Kaingia Wapi, Muro, ils se sont cru très importants. Alors qu'au fond, nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Des simples instruments. Dieu n'a besoin de personne. Ses desseins, il peut les accomplir avec ou sans toi. Que le Seigneur nous aide. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever et la plus grande prière que nous allons faire, c'est ces mots de Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 8, qui dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous devons remplir nos cœurs de ces choses-là. J'aimerais que la chorale, si elle peut nous entonner, brise-moi. Comme ça, on va entrer dans un moment de prière. J'espère que c'est possible. Brise-moi. Brise-moi. Oh. Transforme-moi. Transforme-moi, transforme-moi,
viens conduire chacun de mes pas.
Brise-moi encore une fois, on les chante.
Brise-moi.
Et pendant ce temps, quelqu'un va commencer déjà à parler à Dieu et lui demander de briser et de détruire ce qui ne va pas, de détruire ces choses qu'il est encore en train de nourrir, avec lesquelles il est en train de nourrir son cœur, des choses qui sont encore en train de les mettre à genoux et de les rendre esclaves du péché. Élève ta voix et parle à Dieu. Demande-lui de te transformer et qu'il conduise chacun de tes pas.
Brise-moi,
viens détruire
viens conduire chacun de mes pas.
Oui, Seigneur, cela est notre prière encore une fois cet après-midi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Nous voulons être cette génération qui réellement montre que tu es Dieu, Seigneur, et que tu as des plans merveilleux pour nous, Seigneur. Nous sommes appelés, Seigneur, à des grands desseins en toi, Seigneur. Et nous ne pouvons réussir dans notre appel, Seigneur, si nous sommes encore esclaves des vices, Seigneur. Si nos cœurs, Seigneur, sont encore attachés, Seigneur, à des choses, Seigneur, qui ne nous permettent pas de porter des fruits et des fruits qui demeurent, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous prions, Père, que tu puisses encore une fois nous aider à garder nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à faire attention à ce que nous voyons, à faire attention à ce que nous écoutons, ô Dieu de gloire. Père éternel, nous prions pour nous-mêmes, Seigneur, afin que tu nous aides à faire également attention à ce qui sort de nos bouches, ô Dieu de gloire. Père éternel, nous prions pour nos voix. Aide-nous, Seigneur, à les planifier, Seigneur. Père éternel, nous voulons aujourd'hui prier, Seigneur, comme le psalmiste qui a dit, Seigneur, veille, Seigneur, sur la porte de mes lèvres, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous prions pour nous-mêmes, afin que toutes les paroles qui viendront de nos bouches soient pour l'édification de ton peuple, Seigneur. Soient des paroles qui construisent et non qui détruisent, ô Dieu de gloire. Père éternel, nous avons besoin de toi. Je prie pour un frère ou une sœur ici qui est encore, Seigneur, sous les jougs, Seigneur, de certaines addictions, que ce soit la pornographie, que ce soit, Seigneur, des addictions à la sexualité, à l'immoralité sexuelle, Seigneur. Je prie, Père, que tu puisses les libérer, Seigneur. Je prie, Père, que tu puisses lui donner, Seigneur, cette force, Seigneur, de construire, Seigneur, une forteresse, Seigneur, de dire non à toutes ces choses qui, petit à petit, Seigneur, nous amènent, Seigneur, à nous éloigner de toi. Père éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas continuer à faire et tu vas accomplir de grandes choses en travers de nous, Seigneur. Car c'est dans les noms précieux de notre Sauveur, Seigneur Jésus, que nous continuons à te prier avec action de grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.